Et bah, la thématique de ce soir pour Radio Rageuse, un peu qu'on s'était lancé ensemble, c'était autour de rebelles au quotidien. Et bah, en préparant là cette émission, on s'interrogeait, ok, rebelles au quotidien, qu'est-ce qu'on en pense? Et on était un peu parti déjà sur l'idée que un peu du quotidien, que ouais, ben dans un monde fait pour les hommes blancs, hétérosexuels, de classe moyenne, valides, etc., ben, quand on sortait en fait des modèles dominants ou des cases ou des normes, et ben on pouvait assez facilement se retrouver dans une position qui était ben, considérée comme rebelle. Mais bon, on était plusieurs à se dire, mais en fait ce mot on le trouve pas super positif en fait, ça nous évoque plutôt un truc qu'en général on nous a renvoyé de nous en nous disant allez c'est bon, t'sais, fais pas ta rebelle, ou ça va te passer, ta petite rébellion, genre avec ben... Soit en fait ouais c'est ça, une étiquette qu'on nous colle juste parce que on sort de en fait ce qu'on attend de nous d'un modèle dominant, mais qu'on a pas obligatoirement choisi de s'approprier comme ça, où il y avait d'autres mots qui nous plaisaient plus, mais on reviendra là-dessus. Et avec aussi un côté un peu infantilisation là derrière ce mot rebelle, avec l'idée de oui tu fais ta crise d'adolescence, c'est juste une passade, c'est juste une posture là, t'es anti tout, juste tu, en fait ce serait un truc pas vraiment réfléchi. Et du coup en général on sort ça plus pour nous décrédibiliser et enlever en fait un peu le fond politique qu'on a derrière.
Et du coup, on s'est posé aussi la question du rapport avec le masculin et le féminin, et de se rendre compte que, par exemple, quand ça s'adresse à des hommes, en général, c'est considéré comme quelque chose de valorisant. On le voit dans les luttes, en général, c'est le concours du plus radical. Quand on l'applique à des personnes qui sont considérées comme étant dans le genre féminin, ou de façon générale à des féministes, c'est... à l'inverse, où c'est plutôt mal vu d'être radical, c'est voilà. Et également quand on l'adresse dans le genre masculin ou féminin, en fait c'est pas connoté pareil, c'est-à-dire que autant dans le masculin ça peut être valorisé, ou alors ça va être dit ironique par les personnes, autant dans le genre féminin ça va être plutôt des connotations, une assimilation au ridicule et à une espèce de rébellion qui recouvrirait tout et n'importe quoi sur qui peut être vidé de son sens, et qu'on peut même retrouver, du coup, l'exemple qu'on avait trouvé, c'était dans la pub, avec genre « je suis rebelle contre les cheveux cassants », et que si je dis ça, on s'attend à ce que je sois une femme, en fait, alors que j'ai pas genré rebelle dans la phrase. Et voilà un peu tout ce qu'on avait lancé comme, comme piste, et du coup, on avait envie de se poser la question plus concrètement de qu'est-ce que ça nous évoquait à chacune, et comment dans nos vies ce terme existait ou pas. Et on se demandait aussi, et ça voilà, à l'état de question, si finalement, si on n'aime pas ce terme, outre tout ce que les personnes y mettent, enfin ce qu'il y a dans leur bouche avec ce terme quand elles nous l'adressent, est-ce que c'est pas aussi parce que on a intégré en fait une vision misogyne qui serait que bah, il y a plein de termes, une fois que juste on les met au féminin, bah, du coup c'est assimilé au ridicule, etc. Et est-ce que c'est pas aussi à un moment qu'on a intégré ça et que du coup on n'en fait pas autre chose? Et du coup, voilà, comment est-ce que chacune, ça nous traverse, ça existe ou pas
Bah, du coup, peut-être on peut développer un petit peu plus chacun des points qu'on a évoqués là. Alors, on pourrait commencer avec ce truc qui revient assez souvent, qui est nous ramener à un truc de jeunesse et et ramener nos prises de position ou nos identités à un truc qui va nous passer et qui va et qui apparaît super souvent dans le contexte familial, par exemple. Moi, j'ai l'impression que ça a super souvent ressurgi dans des dîners de famille quand j'étais ado, mais toujours maintenant, où j'ai beau pourtant avoir largement approché de la trentaine et tout ça, et j'ai l'impression que ça m'est toujours renvoyé que voilà, je suis l'éternelle adolescente qui en aura jamais fini de se rebeller contre tout. Et du coup, ce truc qui m'est super envoyé, c'est ah, mais de toute façon, toi, t'es une rebelle. Et du coup, mon propos, il est pas du tout écouté ni pris en compte comme étant un truc sérieux, alors qu'en fait, ça l'est, quoi, et que c'est des opinions qui ont le mérite d'être écoutées tout autant que les opinions de, je sais pas, mon oncle et mon grand-père qui ont des grands débats enflammés sur des sujets tout à fait ridicules.
Les ronds-points.
Comme les ronds-points. Mais alors c'est pas du tout eux qui sont puérils, c'est moi, parce que je refuse d'avoir des enfants, parce que j'ai pas une sexualité hétéro, parce que je préfère vivre avec plusieurs personnes que de vivre seule en loyer, en couple, enfin tout un tas de raisons, parce que je suis végétarienne, et du coup ce truc de toi t'es rebelle, ça ramène à un truc de toute façon on t'écoutera pas, voilà, t'es rebelle, t'es un peu hystérique. Et... parce que moi, je trouvais ça intéressant aussi, ce parallèle avec l'hystérie. J'ai l'impression que peut-être dans le siècle dernier ou même au début du 20e siècle, c'était quand même... Enfin, ce qui était à fond reproché aux femmes, c'était ce stigmate de l'hystérie. Là, elles ont leur utérus qui se promène dans leur corps et du coup, elles sont un peu tarées. Et là, c'est juste, bon, elles sont rebelles. Mais qui, de fait, est pas du tout pareil que dans le cas de gars qui se rebellent, où du coup, ça serait plutôt des militants pris au sérieux, qu'on écoute et qu'on suit.
Et que, je sais pas, moi par exemple, je fais vraiment un lien entre... Là, il y a vraiment une différence de comment on s'est pris quand t'es un homme et que t'es en colère, et de comment on s'est pris quand t'es une femme et que t'es en colère, parce que quand t'es une femme et t'es en colère, bah forcément t'es hystérique, forcément, soit si t'arrives super bien à poser tes trucs, bah t'es un peu autoritaire, t'es presque un mec, quoi. Enfin, et que du coup, je trouve que c'est vraiment la parole des femmes ou, enfin voilà, des lesbiennes, des gwyn, voilà, qui est remis en question, en fait, que c'est vraiment ça, que pour moi l'axe là-dedans il est vraiment enfin là c'est du sexisme hyper fort, en fait, je trouve.
Et du coup ce stigmate qui est renvoyé, enfin ce truc de cataloguer rebelle, est-ce que vous avez l'impression que c'est un truc qui a une fonction d'emblée, c'est-à-dire qui est fait pour décrédibiliser, est-ce que ça se rapporte, par exemple, sur ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on te catalogue rebelle parce que pour ce que tu es en tant que telle, ou pour des prises de position, par exemple?
Bah moi j'ai l'impression que c'est un peu un double truc, mais c'est aussi ce souci du cumul d'un certain nombre de refus de normes, mais un cumul de refus qui sont soit choisis, soit pas du tout choisis, comme je pense mon orientation sexuelle, j'ai pas spécialement l'impression de l'avoir choisi. Ou après le truc, c'est clair que je les ai refusés, j'ai refusé le travail salarié, et mais du coup j'ai l'impression que par rapport à l'identité, par exemple, c'est le fait de créer la réaction en étant juste ce que je suis, qui aussi fait un truc aussi d'un côté, enfin d'une certaine manière, ouais, c'est une case que je me réapproprie. On me dit, ouais, bah toi t'es une rebelle, et ben ouais, quoi, en fait. si c'est ce qu'il faut pour exister, je le suis.
Moi j'ai l'impression que d'être nommée rebelle, ou qu'on me dit t'es rebelle, quand j'ai des remarques, des attitudes, des positionnements, que je fais des choses qui sont pas appropriées, qui semblent décalées, etc. Et du coup, après moi, c'est un terme, voilà, que je me dirais jamais rebelle, je dirais jamais ça de moi, je m'y reconnais pas. Et en fait, qu'on me colle cette étiquette, pour moi, c'est parce que, enfin, c'est pas un truc dont j'ai conscience, enfin j'en ai conscience après, en fait. On me dit, ah, dans la réaction, en fait, dans la réaction des autres face à un ensemble, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que je peux produire, et du coup d'avoir une réaction comme ça d'une personne, soit un peu réac ou alors juste parce que je correspond pas à ce qu'elle pourrait se représenter de moi, du coup oui, c'est...
Ouais, moi j'ai l'impression que là où je vois une entreprise directe de décrédibilisation, là, quand on t'assigne le truc de t'es rebelle, fais pas ta rebelle, enfin cette espèce de ton un peu condescendant, là, ah ouais, t'es trop rebelle, toi. Enfin oui, dans ce mode là c'est le côté ouais, je sais pas, un peu l'effet marketing du mot rebelle, mais qui effectivement je pense est lié aussi à un truc sexiste et misogyne de on enlève tout le contenu politique et tout le sens de ce que tu dis, comme si c'était juste une mode, je sais pas, un style, ouais, une posture, un truc comme ça, et qu'il n'y avait pas vraiment, je sais pas, une réflexion politique derrière qui... que, je sais pas, t'as pas juste sorti comme ça, comme... Bon, je trouve pas d'exemple là, mais je sais pas si on parlait tout à l'heure, par exemple, de ce truc de... par exemple, de refuser de voter, ou par exemple, on va dire, ah ouais, t'es rebelle. Tu sais, genre, comme c'était juste un espèce de truc un peu ridicule, anodin, adolescent, je sais pas trop quoi, là. Et que, enfin, qui est aussi, du coup, lié à un truc d'agisme, là. Et que, à un moment, ça va te passer, tu sais, tu vas rentrer dans la vie adulte, les réalités, et peut-être tu vas arrêter d'être gouine, de pas vouloir d'enfants, ou au moins, faudrait que tu rattrapes, quoi. Genre, ok, tu pourrais être gouine, mais au moins, tu pourrais être paxée, avoir des gosses et voter. Ou, bon, t'as pas de travail, mais au moins, tu pourrais être hétéra. Enfin, je sais pas comment dire, qu'à un moment, là, faut pas déconner, quoi. Et que... Et du coup, on veut pas entendre, en fait, c'est quoi ta réflexion politique derrière, ou tes luttes, ou en fait, justement, peut-être ta réalité quotidienne, ou tes trucs, parce qu'on va juste l'intégrer dans... ouais, c'est une attitude, en fait, une posture.
Ouais, et puis, du coup, c'est comme si ça renvoie à ce truc d'infantilisation, donc t'es rebelle, et du coup, t'es irresponsable, en fait, et tu critiques, mais sans forcément construire, alors qu'en fait, juste, t'es toi, enfin... Et qu'est-ce que... Et du coup, en fait, en étant cataloguée rebelle, c'est aussi pour pas voir qu'est-ce que toi tu crées, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que nous, qu'est-ce qui est créé, en étant hors du champ établi, en étant inapproprié, en étant inadapté, en étant...
Et que je trouve que, du coup, ce truc de rebelle, ça fait vraiment... où... Là, tout d'un coup, t'as décidé que c'est de l'insoumission à un certain ordre établi, là, à un moment, et du coup, ça, du coup, le mot rebelle dans ce qui ressort, je trouve aussi, ça fait comme si, en fait, c'est vraiment, enfin, je sais pas comment. Ouais, c'est vraiment de l'immaturité qui ressort vraiment comme ça. Et alors que, par exemple, ben, à des moments on peut se rebeller et que c'est pour construire autre chose à côté, et que ouais, effectivement ça nous correspond pas et qu'on se rebelle, mais c'est pour moi du coup ce qu'on va, enfin du coup en fait c'est juste que si tu t'as décidé que ça t'allait pas et que t'as décidé de réagir et que t'as décidé de faire quelque chose, ben c'est juste de l'insoumission, quoi. Enfin c'est je veux dire, à un moment il y a vraiment ça derrière. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Sur le plus long terme, pas qu'un acte immature, qui est pas réfléchi, que c'est parce que j'ai pas fini ma crise d'adolescence, parce que si, parce que ça. Enfin, du coup, ce que je ressens, en fait, de ce qui ressort là.
Et puis c'est mettre tout ce qu'on vit sur le même plan, comme si c'était que des choix, etc. C'est-à-dire que dans le même temps, moi par exemple, on m'a déjà reproché d'être et lesbienne et anarchiste, un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, et comme si c'était la même chose, par exemple, comme si j'étais lesbienne pour faire chier le monde. Or, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, quand même, et de même que sur l'identité femme dans laquelle je vis, où c'est un peu comme si c'était choisi pour faire chier le monde, que c'était un jeu, donc c'est encore amené à quelque chose de pas important, donc on espère que ça va passer, effectivement, et c'est ça, en fait, c'est tout réduire à on existerait pour les autres, et je trouve que dans le lesbianisme, c'est un exemple qui est très parlant, parce qu'il y a vraiment, de façon générale, dans la lesbophobie, le refus de... des hommes, en fait, d'accepter qu'on vive en dehors d'eux. Et que du coup, s'ils arrivent à réduire ça à quelque chose qui serait une passade, bah, ça les rassure. Et aussi, même si c'était pas une passade, c'est aussi considéré que ce serait pour les faire chier. Donc ce serait pour eux, en fait, quelque part. Or, moi, je suis pas devenue lesbienne parce que j'aimais pas les hommes. Par contre, étant donné qu'ils se sont placés sur mon chemin, dans ma vie, entre moi et mon lesbianisme, bah, je les ai dégagés à coups de pompe, en fait. Et c'est comme ça que je me suis mise à être contre les hommes, en fait. C'est aussi, même si on parle de rébellion au sens vraiment de la révolte qu'on peut avoir contre la société, et finalement de ce qu'on leur renvoie dans la gueule, c'est en général quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes, et pas une situation qui viendrait de nous, en fait. Ce qu'on est en tant que tel, on le choisit pas. Après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, et de fait, si on est obligé d'en faire quelque chose, c'est bien parce qu'ils nous pourrissent.
Mais par rapport à ça aussi, enfin, justement, j'ai l'impression que c'est la différence entre ce truc de être belle qu'on te colle comme ça, et par contre la réalité que ouais, dans un monde où à un moment t'as pas de place pour vivre parce que justement tu corresponds pas à des modèles dominants, bah t'es quand même de fait obligé de te révolter ou de te mettre en rébellion contre des trucs, parce que tu vas avoir je sais pas, de l'haine, de l'opposition, d'autres, enfin des réactions en fait négatives par rapport à ça. Et du coup, en lien avec ça, on pourrait écouter un morceau de Tribait.
Tout à fait, on va écouter People Hate Me, qui est un morceau qui parle justement de comment des gens peuvent nous détester pour ce qu'on est ou pour les choix qu'on a fait, et aussi de comment du coup on se dresse en opposition et donc en rébellion par rapport à leur réaction. Je sais pas si c'est très clair, mais
ouais.
Écoutons donc ça.
People hate me. But I watch the lid. Ain't the kind of tipper they can stick their prick. People hate me for the color of my skin,
the shape of my eyes, cause I might take revenge for the lies they're dead. Told my kin I might take your life, cause I rape my mom. I might have a knife or a gun or a bomb or a machete. People hate me cause I'm not like them. I don't give a shit where I fit my plan. Casting bitch, show my tits. Don't shave my legs or my armpits. People hate us, we start trouble. Fuck shit up, burst their bubble. We like chainsaws and fake blood. From Bloomington to Boston, our name's Bud. Because I'm not gonna die. They watch me a lot of like committed suicide. They think I was great, but just go away. But I'm not, cause I got a lot of shit to say. People hate me.
Alors bonsoir, vous écoutez toujours Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et alors pour rester dans la thématique de la rébellion, je me demandais, là on a plusieurs invités, alors je me disais peut-être que on pouvait vous poser la question à vous aussi. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce terme rebelle? Est-ce que c'est dans quel contexte vous rencontrez ce terme? Est-ce que c'est un mot qui vous évoque plutôt des choses positives ou négatives?
Rebelle, quoi, rebelle.
Vous, rebelle.
R-E-B-E-L-L-E.
Moi, je sais pas, ça me parle. Donc, du coup, ça va rebondir un peu sur des choses qui ont déjà été dites, mais en effet, ce rapport à comment, moi, j'avais envie de croiser un peu aussi comment on est considéré en tant que meuf aussi dans ces rébellions et comment, du coup, on n'est pas prise au sérieux, mais aussi en fonction de notre âge, avec une notion d'agisme, quoi. Si on est une jeune femme, et ben, c'est encore moins crédible. Et tous les choix qu'on peut faire et toutes les normes qu'on peut mettre de côté pour vivre ce qu'on a envie de vivre, et ben ça va nous être reproché en nous disant ça va passer en fait, bon d'accord, alors ok, tu fais ce choix là mais ça te passera, tu fais ce choix là ok, t'accumules, bon tu nous auras tout fait, vraiment là, vraiment ça ce truc d'accumuler lesbianisme, végétarisme, ne pas vivre en couple, ne pas vouloir d'enfants, nanana, bon ça vient se rajouter, s'accumuler, et au final on se fait ressentir que c'est vraiment pour faire chier. Et en fait, oui, voilà, dépasser un truc de moment de statut de jeune fille, de jeune femme, nanana, bon, ok, après tu grandis, t'as l'âge où tu devrais vraiment t'intéresser à te marier et tu le fais pas, tu devrais t'intéresser à avoir des enfants et tu le fais pas, bon, et là, on dit, bon, ouais, en fait, t'es une chieuse, ça te passera pas, et t'accumules encore plus, et du coup, il y a vraiment un truc péjoratif là, où, et comment ça s'installe dans l'âge aussi, et comment, je sais pas, dépasser, là si je fais un tour d'horizon, il y a des âges peut-être un peu différents et tout ça, et je me dis, bon, mais en fait, comment c'est considéré aussi, est-ce que c'est que le fait d'être une meuf qui crée ça, ou est-ce que aussi le fait d'être jeune, est-ce que ces mêmes choix d'aller un peu contre les normes, il est pris plus au sérieux quand c'est des choix qui sont installés sur le temps. Enfin, ça me questionne un peu sur tout ça.
Bah, par rapport à ça, par exemple, moi j'ai l'impression que c'est dans l'autre sens, en fait, que la question elle se pose, c'est-à-dire que en fait, du moment où t'es considéré comme pas dans la norme, ou que des gens ils vont te cataloguer rebelle, il y a comme un truc où forcément t'es jeune. Et du coup, même si en fait t'es beaucoup plus vieille que ce que les gens croient, parce que t'es comme ça et qu'on te catégorise comme ça, on pense que t'as genre 20 ans, tu vois. Alors qu'en fait, t'en as plus de 30. Et les gens, ils peuvent pas imaginer que quelqu'un d'adulte ou de responsable, ou qui arrive à faire des trucs et des vrais choix dans sa vie, il puisse être hors de la norme. Et en fait, je pense que ça les renvoie vachement à leur incapacité en fait à avoir des utopies, ou à leur facilité à se plier, justement. Et du coup, pour pas s'interroger sur eux-mêmes ou sur cette façon en fait d'avoir cédé à un moment ou à un endroit, bah du coup ils préfèrent éliminer ta façon de voir les choses en la décrédibilisant d'avance, pour en fait clore le débat, mais parce qu'ils veulent pas avoir cette discussion, parce que cette discussion elle va les mettre en face de comment eux ils se sont pliés à cette norme en fait. Voilà.
Et sur l'âge, enfin même chez des personnes qui sont beaucoup plus âgées, ça se marque aussi comme ça. Sur par exemple le fait d'avoir j'ai une copine qui a 51 ans, qui est féministe, et clairement à chaque fois qu'elle s'énerve, ce qu'on lui dit c'est oh mais c'est pas sérieux à ton âge. Donc c'est-à-dire que même quand on reconnaît l'âge de la personne, on lui dit que c'est pas sérieux.
Ouais, puis ça c'est hyper frappant là sur ce truc où tu te dis mais jusqu'à quel moment genre on va te voir plus jeune juste parce qu'à un moment tu fais quelque chose que t'es considéré faire jusqu'à un certain âge et après je sais pas, c'est périmé quoi, enfin une lettre de péremption comme le stop là. Enfin je veux dire le stop les gens c'est comme si c'était impossible que tu fasses du stop à 30 ans. Du coup, t'es censé, ouais, je sais pas, c'est direct, t'es étudiante. Enfin, faut qu'il y ait une explication pour que, en plus, si t'es une meuf seule qui fait du stop, parce que en général, ils considèrent qu'il y a une sorte de prise de risque inconsciente et voilà que c'est vraiment que t'es un peu jeune, folle et rebelle, quoi. Enfin, une espèce de truc comme ça.
Bah, moi j'ai l'impression que dans ce truc aussi de décrédibilisation et de du coup infantilisation des postures, enfin c'est pas des postures justement, des prises de position non dominantes, il y a aussi un super intérêt, enfin pour moi c'est aussi un truc qui est hyper stratégique dans un truc de contrôle social et dans un truc de maintenir justement l'illusion qu'il n'y a qu'une seule voix, qu'une seule société, et que du coup ça, le fait de décrédibiliser et de ramener un truc de petite cabriole d'enfance là, de faire tout ce qu'on fait et ben c'est aussi justement complètement invisibiliser tout ce qui se crée en parallèle, toutes les sociétés, enfin il y a plein de choses qui se passent en parallèle du modèle dominant, il y a des gens qui font plein de choix de vie hyper différents, et qu'en fait ce truc de stigmatisation de la jeune rebelle là, ou du jeune rebelle, c'est aussi une façon de justement complètement oblitérer, et qu'en fait oblitérer tout ce qui se passe à côté, et que c'est un moyen de contrôle hyper hyper fort.
Moi, enfin je sais pas, dans mes expériences j'ai l'impression que aussi il y a aussi pour moi eu un changement du moment où je me suis dit ok, j'ai 30 ans, je suis comme ça, et c'est comme ça. Et que du coup les gens ils ont pas du tout la même réaction aussi face à moi, voilà, et que par rapport à, alors je sais pas si c'est parce que ma famille elle est au Québec ou j'en sais rien, ce qui à mon avis change quand même pas mal de choses sur des trucs, mais pas pour tout le monde je pense, et que du coup en fait j'ai l'impression que ce truc d'immaturité de toute mon adolescence où en fait je me cherchais, je construisais, même si tout est jamais constructif en fait, même pour les gens qui sont pas rebelles, même pour les gens que voilà qu'on dit, qu'on catalogue rebelles, bah en fait c'est du coup là où j'en suis maintenant, tout le monde est très fier de moi parce que j'ai tenu ma rébellion jusqu'au bout en fait. Et c'est fou ce qu'on m'a envoyé à l'adolescence. C'était super mal vu. Et ben maintenant, ils sont hyper contents, quoi. Parce que maintenant, j'ai plein d'outils. Et même pour eux, sur plein de trucs qui sont hyper largués, ben, je peux les aider et tout ça. Et tout le monde est bien content, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
Ben, du coup, pour moi, c'est ce truc aussi de quand t'es rebelle ou catalogué rebelle ou en tout cas que tu te positionnes en résistance, c'est un truc d'assumer des choix qui sont et qui sont pas dans la norme, qui sont pas appropriés, qui sont pas dans le système dominant. Avec tous ces adjectifs. Et du coup en fait ça fonctionne si genre t'es triste, enfin que tu peux pas dans ce truc de pas avoir de travail par exemple, enfin là c'est t'es rebelle parce que t'as pas de travail, parce que t'es gouine, nanana. Donc tout ça on colle l'étiquette rebelle, et alors que moi je sais que ça m'arrive plutôt qu'on me dise ah oui mais alors ah oui t'as pas de travail, ah oui c'est pas facile, non mais ça va, c'est comme j'assume ce choix là en fait, ça me va, c'est un truc de toute façon j'ai pas envie de faire autrement et je conçois pas ma vie autrement, et du coup bon bah alors là c'est ce truc là de discrédit qui passe par oui oh t'es rebelle, ou alors oh là là t'es ce genre de personne en fait qui est contre tout, et moi j'ai pas envie de regarder ce genre de personne.
Bah, dans un espèce de truc où si en gros si tu correspondais pas à des modèles, des normes, mais que tu le vivais mal encore, ça passe quoi, genre si t'es un peu queen, chômeuse et malheureuse et t'as pas t'as décidé de pas avoir d'enfant et vraiment c'est trop dur pour toi et tu te sens frustrée, je sais pas quoi, les gens à la limite ils peuvent s'apitoyer, tapoter l'épaule quoi, et du coup ça va encore à peu près, mais si à un moment tu l'assumes dans un truc de dire mais en fait c'est mon choix et je vous emmerde et c'est ça dépend pourquoi, il y a des trucs qui sont pas un choix, mais en fait je suis hyper contente comme ça, et en fait je sais pas, j'en suis fière en fait voir, j'ai envie de lutter pour ça et etc. Ben là en fait c'est vachement plus dérangeant parce que parce qu'à la limite ça passerait si au moins on pouvait un peu s'apitoyer sur ton sort de manière condescendante, pas si tu dis j'en suis fière et vous me faites chier quoi.
Bon bah on va faire une petite pause musicale. Alors là on va s'écouter The Golden Ghost d'un groupe qui s'appelle Chiki. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Canu à Lyon pour une session de direct de Radio Rageuse. Et donc voilà, sur le thème Rebelle au quotidien, on était en train de parler de ça et là on vient d'écouter un morceau. Alors je comprends pas du tout toutes les paroles, mais en tout cas à la enfin le refrain c'est on ne sera jamais ce que tu veux qu'on soit, on vivra jamais en arrière-plan, enfin dans les arrières. Voilà, donc on trouvait que ça collait bien à ce dont on était en train de parler, parce qu'on était en train de débattre, un peu de discuter autour du terme rebelle et de qu'est-ce que ça nous renvoyait, si on s'y retrouvait, qui c'est qui nous disait qu'on était rebelle et pourquoi on trouvait que c'était pas forcément le terme, un terme qui nous convenait et tout ce que ça portait, etc., etc.
Voilà, et donc pendant la pause musicale, on discutait un peu, on faisait un peu le point sur où est-ce qu'on en était arrivé dans la discussion. Et moi, je trouvais intéressant de parler des différentes facettes d'être belle, non seulement par rapport aux extérieurs, on va dire, enfin parce qu'on évolue toutes plus ou moins dans des groupes militants, et donc il y avait aussi le rapport aux hommes dans les groupes militants qui est différent que celui qu'on a. Dans la famille ou avec des extérieurs. D'ailleurs, c'est pas que des hommes qui peuvent ne contre lesquels on doit lutter pour s'affirmer, quoi. D'ailleurs, mais je trouvais que intéressant dans les collectifs justement quelle stratégie de défense on met en place contre les hommes, quoi, dans les groupes militants. Et je sais pas si vous aviez envie de rebondir là-dessus, mais bon, en tous les cas, moi j'ai plein d'expériences très concrètes qui peuvent dire qu'il y a effectivement, tu vois, des situations vraiment, on va dire, difficiles, quoi. Enfin, mais en tout cas, justement, dans le monde de la radio, je pense que toutes celles qui font de la radio, elles ont été confrontées à ça au moins une fois, mais vraiment les techniciens, enfin, tout ce qui est l'univers de la technique, c'est toujours les hommes qui s'arguent de savoir mieux que tout le monde, enfin, comment est-ce qu'on s'y prend et tout ça. Enfin, bon. Et donc, c'est un peu comme une lutte comme ça, de devoir prendre sa place au niveau de la technique. Et ce qui est d'autant plus chiant, parce que la technique, c'est vraiment une position de force et de pouvoir aussi, justement. Et donc, quelque part, c'est vraiment une espèce d'enjeu, alors que dans, justement, les groupes militants dans lesquels on est, on a souvent tendance à se dire qu'il y a des choses qui sont évidentes et tout ça, qu'on n'est pas obligé à chaque fois de réaffirmer. Mais en fin de compte, même dans des milieux soi-disant amis, ben, on en reste un peu au même stade, quoi, j'ai l'impression.
Et je rajouterais que c'est pas que par rapport à la technique, parce que la parole, c'est vraiment monopolisé, je trouve, souvent par les mecs. Et pas que la parole, enfin je veux dire, il y a un peu tout dans le monde de la radio, je crois que c'est quand même majoritairement occupé par des mecs, hein. Voilà, je voulais dire ça.
Tous les champs.
Mais aussi que, par exemple, même dans des collectifs de radio où par exemple les décisions sont prises et par des meufs, des mecs, des féministes et tout, en fait le défi c'est même pas que ça, c'est aussi par rapport à notre construction, enfin je veux dire, là il y a vraiment un truc de ok, comment on fait pour, enfin c'est-à-dire que les mecs ils vont pas dire allez les filles je vous donne un petit cours de technique ou de comment on répare les micros et de ci et de ça, et enfin c'est super, là ça devient difficile à des moments je trouve, parce qu'il y a des choses qui se cristallisent en fait, enfin que des fois c'est pas de la mauvaise volonté, des fois oui, des fois ou la plupart du temps je pense, et du coup moi je parle plus d'une expérience qui est chouette en ce moment, mais que du coup je trouve que ça va plus loin que ça en fait, c'est juste du coup ben c'est figé et c'est cool, mais c'est quand même figé et on a du mal à, enfin voilà, même nous on est pris dans les mêmes mécanismes de, en étant femme, ben c'est ou Gwyn, ben on arrive, enfin c'est dur de se réapproprier de ah ouais, moi je vais réparer je sais pas moi l'électricité de la radio, enfin je vais m'occuper de voilà, enfin c'est Après, bon, je pense que c'est un peu hors sujet. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Mais du coup, dans les stratégies, peut-être plus par rapport au... Mais du coup, c'est juste que... Voilà. Enfin,
par rapport... Bah, on parlait de ce truc-là, de quand on est catalogué comme rebelle, et que je trouve souvent c'est une manière vachement de nous réduire. Et on se demandait aussi pendant la chanson qu'est-ce qu'on préférait comme mot. Et en fait, moi je crois que j'ai pas envie de choisir un autre mot, j'ai juste envie, je trouve que quand les gens ils me disent que je suis rebelle, c'est une manière de pas avoir envie, plus de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, et de pas me laisser de place pour... dire bah en fait je suis pas seulement rebelle, je suis féministe parce que y a ça comme oppression, je suis anarchiste parce que il y a ça comme truc en face, et qu'en me disant que je suis rebelle c'est vraiment ne pas me laisser d'espace pour exprimer ça. Du coup, en termes de stratégie, ben je vois un peu deux trucs. À des moments j'arrive quand même à faire de la place et à dire bah en fait tu me dis que je suis rebelle, mais moi je te réponds et je suis pas rebelle, je suis selon la situation, par exemple féministe, parce que voilà ce qui se passe là, je le vois et tout. Bon, je vais pas dire c'est pas une stratégie qui marche à 100%, pas du tout. La plupart du temps, en général, c'est aussi renvoyé de toute façon. Enfin, il y a comme un truc, si la personne elle veut pas entendre, elle veut pas entendre. Et après, par rapport à ce truc de la radio qu'on parlait là, de ou d'être simplement dans des milieux de mecs, et ben c'est une expérience qu'on est plusieurs à vivre sur la radio à Saint-Etienne, parce qu'on est un peu débarqué dans le CA. Ça veut dire quoi, CA déjà?
Conseil d'administration
de la radio, pour être clair. Et du coup, je trouve que c'est un truc qu'on nous renvoie vachement, de ah, vous êtes des rebelles et en gros on va pas vous écouter. Alors soit sur des trucs un peu infantilisants, soit sur des trucs sexistes. Et la stratégie qu'on met en place, et où quelque part ben ça marche et en même temps on se fait bien avoir, c'est que du coup on en fait des tonnes pour prouver nos compétences. Et je trouve qu'en tant que meuf Gwyn, ben c'est souvent la stratégie, ça va être ça, c'est que a priori on t'écoute pas ou on te laisse pas de place. Du coup ben tu vas mettre plein d'énergie pour prouver que t'es capable de faire autant que le gars qui est à côté et qui a rien à foutre, pour que lui de fait on lui accorde cette légitimité, ses compétences, etc. Et que du coup, ben, une stratégie souvent pour se faire de la place dans ces milieux-là, c'est d'en faire plus que les autres. Et j'hallucine par exemple sur les émissions féministes que j'ai vues, je vois comment on se prend carrément plus la tête à monter des numéros zéro qui sont super chiadés et tout, alors que des fois j'entends les émissions que proposent des gars et qui se posent pas la question de est-ce que c'est bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, ils se sentent direct plus légitimes. Du coup, c'est une stratégie que je trouve intéressante et en même temps hyper fatigante, et c'est dommage juste de devoir passer par cette stratégie-là.
Et en même temps, d'un autre côté, soyons honnêtes, ça fait que finalement on finit par avoir plus la classe. Et dans les stratégies que moi je rajouterais à ce que tu disais par exemple, c'est de pas le faire seul. C'est-à-dire, en vrai, être seul dans un groupe de mecs, ce qui se passe très très souvent dans les groupes militants, enfin, juste barrez-vous, faites des trucs avec vos copines. Non mais vraiment, en fait, parce que de faire des trucs avec ses copines à côté, enfin, à un moment je pense que se sortir des stigmates pourris qu'on nous colle, en fait, c'est accepter de perdre des potes. C'est-à-dire moi je sais pas, j'ai une stratégie de il y a quelques années tout le monde trouvait que j'étais rigolote et fun à chaque fois que j'ouvrais ma gueule, en fait. Mais ils savaient pas que j'étais lesbienne. Et du coup, bah, ça pouvait rester rigolo. Et puis, à partir du moment où ils ont su que j'étais lesbienne, ça marchait moins bien. Et alors, quand j'ai commencé à assumer ce truc d'être femme, du coup, il y avait quelque chose de... puisque t'es féminine, tu dois être douce, plus que les autres. On s'attend d'autant plus à ça, soumise en tout cas, par opposition à rebelle. Donc, si tu l'es pas, bah, t'es encore plus stigmatisé, etc. Et la stratégie que j'ai trouvée, c'est vraiment de, par exemple, les périodes où je suis fatiguée, où j'ai pas envie de prouver et du coup d'en faire plus, bah, je me contente de gueuler, en fait, et à plusieurs, et ça fait un bien fou, en fait. Et mais vraiment, enfin, quand on est seul dans un groupe où il y a que des personnes en position de domination face à soi, il faut se barrer, quoi. C'est de la survie.
Bah. Ouais, parce que moi sur ce truc là de comment on le repositive, je sais pas, tu vois, s'il y a des mots que j'aimerais mieux, tu vois, genre d'être en révolte, enfin on réfléchissait à ça, ou en résistance, ou... Et en fait là je me disais que peut-être une de mes stratégies c'était plus de dire genre, non mais toi tu dis que je suis rebelle dans un truc plus décrédibilisant, et moi j'ai plus envie de dire mais en fait non, ouais, je suis super vénère, ça ok, je suis d'accord, tu vois, genre je suis super vénère contre tel truc, et c'est plus mais en fait je comprends pas que toi tu le sois pas, quoi, enfin plus de mais en fait on vit dans un putain de monde de merde,
je sais pas moi, hétéropatriarcal, raciste, sécuritaire, machin, et toi t'es pas vénère en fait. Enfin, et plus de renvoyer un truc genre, ouais, toi tu trouves tel ou tel truc normal, ça te va bien, enfin... Et aussi des fois renvoyer les gens à leurs privilèges en fait, parce que... Enfin non, mais ce que tu disais là par rapport au truc de on a toujours plus à en prouver, c'est l'espèce de mythe là aussi... Ce truc de la méritocratie, là, comme si tout le monde partait au même niveau et puis chacun devait faire ses chances, machin, alors qu'en fait, il y a des personnes juste qui se retrouvent à avoir des privilèges dans la société et qui n'ont donc pas approuvé des trucs, alors que quand tu les as pas, ces privilèges-là, ben, t'es obligé de justement en faire 15 fois plus que les autres et à un moment de le renvoyer aux autres aussi, en fait. T'as, tu crois quoi, en fait, que t'as atterri dans la radio parce que ta première émission que t'as présentée, c'était le truc du siècle? Pas du tout, c'est juste parce que, ouais, je sais pas, à un moment, enfin, t'sais, tu sais, je sais pas, j'en sais rien, tu vas bénéficier de tel ou tel privilège et c'est ça qui t'a aidé, quoi. Enfin, et à un moment, rends-toi en compte, quoi.
On est tous d'accord.
On pourrait écouter Compié.
Ah ouais, sur ce, on va écouter un petit morceau de Grâce et Volupté Van Van qui s'appelle Compié, qui est sur le féminisme radical.
Radical.
Al.
3, 4. C'est pas parce qu'on fait du folk qu'on peut pas mettre des coups de botte. Paraît que t'es sympa, ma copine sort avec toi. Excuse-moi encore une fois, j'ai perdu mon sang-froid. Tu me demandes de me justifier sur la non-mixité. C'est pas à moi de t'expliquer. Toute façon, t'es con comme tes pieds. Humaniste, pardonne-moi d'être sectaire, c'est vraiment arbitraire. S'il y avait des oppressions, on aurait eu l'information. Ta tolérance, on s'en balance. Y'a plus la République de France, y'a plus de doute, t'es un connard. Avec toi, y'a plus d'espoir.
Faute à toi, c'est l'hétéropatriarcat. Il faut pas que tu t'énerves comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que t'aimes pas les bonnes femmes? C'est parce que ta mère, elle a pas voulu t'allaiter? C'est pour ça que t'es méchant? T'inquiète pas, ça va aller. Nous, on est là pour la paix, pour tendre la main à son prochain.
Toujours sur Radio Canu, toujours avec Radio Rageuse, et là on va conclure.
Et du coup, puisqu'on a beaucoup dit qu'il y avait des mots qu'on n'aime pas, qu'on nous les colle, tout ça, bah, une des stratégies, ça peut être de juste se définir soi et de réfléchir à où on se positionne dans la société, et du coup, qu'est-ce qu'on renvoie, qu'est-ce qui nous est renvoyé, d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Du coup, on va conclure avec un morceau de Viscéralement Déviant qui s'appelle Butchfem, ce qui est pareil, un des exemples de termes qu'on peut utiliser quand on vit ce genre de truc, et qui est une autre façon de retourner la rébellion.
Dynamique de combat, dynamique de l'émoi, dynamique de combat, dynamique de l'émoi. Une rhétorique qui vaut le coup, les normaux interloqués restent à genoux. Et nous toujours fiers d'être debout. Butchfem, dynamique de combat, Butchfem, dynamique de l'émoi. Les rôles déjà distribués, impossible pour toi d'imaginer. Pas de chance, pas la possibilité d'inventer. Maman, papa, je ne joue pas de cette dynamique là. Maman, papa, je veux et je vis bien mieux que ça. Moi, j'ai ce luxe de tout pouvoir créer. Pas de modèle à imiter. Elle, moi, notre intimité partagée. Une sensualité sans cesse redessinée. Tu la prends pour une hétéra. Et moi, pour un gars. Ça t'arrangerait que ce soit si banal que ça. Heureusement pour nous, on est bien loin de ces schémas-là. Bouche femme, dynamique de combat. Bouche femme, dynamique de l'émoi. Bouche femme, dynamique de combat. Bouche femme, dynamique de l'émoi. J'ai la chatte encore toute lubrifiée de la dernière fois où elle m'a fisté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça que t'avais imaginé. Active ou passive, ça ne m'a jamais parlé. Active et passive, c'est là que je prends mon pied. Oh, je voulais pas te choquer, juste expliquer. Je te laisserai pas m'enfermer. Garde ces modèles pour toi. Tes sentiers battus ou pas, j'en veux pas. Moi, je continue à créer, à rêver. Butch femme, dynamique de combat. Butch femme, dynamique de l'émoi. Butch femme, dynamique de patriarcat.
Qui défrise l'hétérocratie. Tata Bigoudi, l'émission des flamants roses pour les tata, les bi, les goudous et les trans.
Peter Pan, c'est une fille. On l'a fait ressembler à un garçon, mais c'est une fille. On lui a simplement coupé les cheveux très courts et fait porter un soutien-gorge très serré.
Chaque personne puisse jouir du droit à l'indifférence, il est nécessaire que des personnes se regroupent collectivement pour énoncer qu'on peut vivre une différence.
Le couteau est la seule façon de se définir comme primé, la seule communication audible. C'est le premier pas réel hors du cercle, c'est nécessaire.
Mais il faut l'accepter comme tel, et après tout, pourquoi pas?
Ah, pourquoi? Parce que nous avons...
le désir de s'affirmer dans notre impudeur.
On est forte et on a la classe.
Dans notre petit monde.
Ouais, c'est vrai, elle a raison. Pardon, je suis désolée.
Allez, santé.
Santé.
Bienvenue au Percaille. Bienvenue au paradis.
Eh bien, j'en suis.
Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout.